L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
C'est l'heure de l'EM, l'émission sur Radio Évasion. Au programme, avec notre invité, nous parlons théâtre avec le collectif Nous Enquête. Le collectif produit, organise des pièces de théâtre, mais ce n'est pas que ça. Quelque part, c'est un projet d'animation de territoire qui guide ce collectif. Nous prendrons le temps un peu plus tard de parler de l'actualité du collectif, car l'actualité nous rattrape. Et c'est cela d'abord qui va nous intéresser dans un premier temps. Nous sommes avec Lionel Malik Slimane Tichtich, bonjour.
Waouh, tu l'as fait en entier, merci, bonjour.
Ouais, ça va, bon, faut un peu respirer, mais sinon ouais. Ça le fait.
C'est un coup, ça
un jour, on fera une émission, pourquoi c'est si long?
Voilà, ouais, j'ai failli faire un procès à mes parents, non je l'ai pas fait en vrai, mais bon voilà, tu dis, bon les gars, à un moment faut arrêter, mais bon c'est pas le propos.
Non mais c'est bien.
Oui.
C'est rigolo.
Bah disons que oui, voilà, c'est ça, c'est que si tu veux passer inaperçu dans la vie, si tu veux essayer de, tu vois, de, comme moi qui suis monstrueusement timide, essayer de passer entre les... ça marche moins. Ça marche moins.
Bon, que c'est... Pour le reste de l'émission, on dira Malik.
Ouais, c'est bien Malik.
Ok.
Ouais.
Donc en ce moment, le collectif travaille d'arrache-pied, au vu notamment du mercredi 19 avril à 14h30. Ça se passe à l'Améthyste, à Crozon. La pièce s'appelle « En une seule nuit, elle a traversé tout le désert. Un roi est victime d'une malédiction. » Mais qu'est-il arrivé à ce roi? Que lui vaut cette malédiction?
Eh ben, c'est un peu de sa faute aussi, dis donc. On n'est jamais vraiment maudit sans raison. Quand t'as quelqu'un qui te balance une malédiction, c'est que t'as fait un truc qui était pas cool envers cette personne, probablement, il y a un truc comme ça.
Ah, peut-être. Une histoire de karma, tu veux dire?
Ouais, voilà, ça prend plein de noms différents après, hein, selon les lieux sur la Terre, mais... qu'est-ce qui lui est arrivé à ce roi? Bah en fait, c'était... Alors, il le raconte très bien, hein, pour le coup. C'était un roi, quoi, tu vois, comme un roi. Voilà, c'était un roi berbère, tout ce qu'il y a plus roi berbère, dans la berbéritude du roi, quoi. Et puis, il croyait que tout allait bien se passer, que tout allait couler tranquille dans sa vie, puis il s'est rendu compte qu'il y a des choses qui se passaient pas si bien que ça, et il a pas toujours réagi exactement à la hauteur de ce qu'il aurait fallu, et du coup, il se retrouve avec une malédiction sur le dos.
Mais c'est quoi le genre de contrariété qui arrive à ce roi?
Alors, on est en famille.
Ah!
On est en famille. Bah oui, je me suis basé, en fait, pour écrire ce texte sur des contes berbères, principalement, même quasi exclusivement, kabyles. Et c'est le lieu de comme le alors on sait qu'avec nos enquêtes on aime bien créer des objets culturels hybrides. Je ne suis pas un spécialiste du conte. Je ne revendique pas d'être vraiment pas d'être un spécialiste du conte et encore moins du conte berbère. En revanche, c'est une forme que je regarde, c'est une forme que je vais voir, c'est une forme que j'aime énormément. Et avec nos enquêtes, on s'est dit, faut qu'on fasse comme avec d'autres formes de théâtre qu'on a pu utiliser. On va s'en inspirer, on va trouver quelque chose de façon à nous inventer un conte qui soit quelque chose d'un peu intermédiaire. Et dans les contes en général, tu sais, t'as un personnage qui est neutre, qui dit, en fait, on m'a raconté un truc, faut que je te le dise. Et là, le parti qu'on a pris, c'est d'en faire une histoire de théâtre, donc en partant de ce roi. Voilà, c'est-à-dire que le personnage du conte fait partie du conte lui-même. Il raconte son histoire, mais c'est lui qui fait partie du conte lui-même. Et dans l'idée de transmettre, puisque le conte c'est ça, hein, c'est transmettre, je me suis rendu compte que c'est moi qui faisais le travail de recherche sur les contes. En fait, tout est raconté dans les contextes familiaux, quasiment exclusivement. C'est alors pas la famille nucléaire comme on l'entend nous, hein, c'est pas papa, maman, ça s'arrête pas là, c'est vraiment le royaume, c'est la tribu, quand on parle de royaume, on n'est pas dans le château médiéval avec les dragons et les princesses, quand on est dans quelque chose de plus réel. Et toutes les histoires de transmission se font dans la famille. Et ça se fait à partir d'histoires, ça se fait à partir de devinettes. La devinette est une pratique très courante de transmission de la culture chez les berbères et chez les kabyles en particulier. Et des chansons, et des... Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, je vais... Comment je trouve un fil rouge dans tout ça? Et l'idée, c'était de trouver ce roi à qui il arrive des misères, mais à travers d'autres contes, évidemment.
Dans ce que vous avez voulu faire, est-ce qu'on peut y voir un lien avec, par exemple, les contes de Nasreddin?
Nasreddin, tu parles de Nasreddin, par exemple, la version kabyle de Nasreddin.
Pour situer, les contes de Nasreddin, c'est un petit peu c'est la sagesse populaire moyen-orientale, avec pas mal de petites histoires. Dans l'idée, c'est un peu les fables de La Fontaine en mode Moyen-Orient. Ouais.
Alors, c'est plus... on garde,
c'est ma perception, précise.
Oui. Après, c'est bien, ça ressemble plus presque à Toto.
Ah ouais.
C'est le type à qui il arrive tout, tu vois.
Ouais, et des trucs souvent un peu cons.
Oui, oui, voilà. Bah en fait, c'est le fou philosophe. C'est le fou philosophe de Nasreddin, et chez les Berbères, et principalement chez les Kabyles, il s'appelle Joha.
Nasreddin
Joha, tout court.
Ouais.
Il s'appelle Joha.
Il n'y a même pas une petite rêve
Non, il s'appelle juste Joha. Mais il lui arrive exactement les mêmes histoires. L'histoire du clou dans la maison, qu'il vient de vendre, mais comme il n'a plus d'argent, il vend sa maison, mais il se dit, ah là là, tiens, je te vends ma maison, mais en revanche, tout sauf ce clou. Et ce clou, j'ai le droit de venir le visiter quand je veux. Et le mec, il dit, oui, bien sûr, bah, il vend, l'achète la maison. Et l'autre, il vient tous les jours dire, ah, c'est mon clou, ah, mon clou. Et au bout d'un moment, l'autre, il en a marre. Il dit, bon, je te la revends ta maison. Non, je peux pas la racheter, bah, je te la donne. Et donc, du coup, et voilà, Nasreddin Joha récupère sa maison. Mais ça, tu le trouves dans. À la fois tout le bassin méditerranéen, mais tu peux remonter carrément jusqu'à la vallée de l'Indus, en fait, avec ces histoires de Nasreddin, Joha et d'autres. Enfin, il a d'autres noms aussi, mais c'est le même personnage, oui, bien sûr. Et il apparaît en une seule nuit.
Alors, pour revenir à ce roi,
oui.
Par qui est-il interprété ?
Moi. Ouais, voilà.
Est-ce qu'il y a une grosse part d'autobiographie ?
Eh bien, alors... Pour être totalement honnête, j'avais pas du tout imaginé qu'un jour j'irais travailler sur cette partie-là du monde. On en a déjà discuté une fois précédente, je continue à me former au persan, j'ai envie d'écrire à un moment un spectacle qui serait en arabe, en persan et en français, et peut-être dans d'autres langues encore, parce que voilà, il y a quelque chose d'ordre des peuples premiers de cette zone du monde qui, moi, me parle très très fort. Bon, après... Voilà, vu ma partie de racine outre-méditerranée.
Peuple premier, tu peux nous l'expliquer ?
Bah, tu sais, ces gens, en fait, où on dit ouais, tu sais, notre histoire, elle commence à l'Antiquité, elle commence avec les Grecs. Mais que nenni !
Non, il y a des trucs avant.
Il y a plein de trucs avant, en fait. Et plein de trucs avant qui ne sont pas du tout basés sur la culture du héros, qui ne sont pas basés sur la tragédie, qui ne sont pas basés sur la douleur, qui ne sont pas basés sur le sacrifice, qui ne sont pas basés, en fait, sur tout ce qui fait notre société occidentale, en tout cas moderne. Ça, c'est vraiment l'héritage des Grecs, pour le coup. Et c'est un ancien helléniste hein, qui te parle. Moi, c'est vraiment... C'est une
situation, ouais, Ulysse, ça va, quoi, mais à un moment donné, hop. Hein.
Mais pareil, Ulysse, quoi, tu vois, c'est un récit composite. Bah, c'est un peu... Bah, voilà, tu vois, genre, là, je vais faire un parallèle absolument, absolument ronflant, tu vois, par rapport à Homère, qui est cette espèce de collectif d'artistes, en fait. Parce que Homère, c'est pas un seul type, hein, c'est plusieurs personnes qui écrivent toutes les histoires que Ulysse a vécues. Et Ulysse, il sert de passage, en fait, à toutes les histoires. Mais ça, c'est hérité. C'est hérité des Perses, et c'est hérité du peuple amazigh, en fait.
Le peuple amazigh qui est l'objet de la pièce.
Tout à fait, les Berbères. Et par exemple, tu regardes, il y a une histoire, à un moment, qui parle de Thesis and Wenzar, qui est la fiancée de la pluie. Et la fiancée de la pluie, Anzar, le dieu de la pluie, de l'eau et du destin, c'est l'inspiration directe, mais directe, hein, quasiment, ils changent juste le nom et c'est le même, de Poséidon. C'est-à-dire qu'en fait, même dans les devinettes que tu trouves chez pratiquement tous les peuples berbères, tu retrouves des devinettes que tu regroupes après avec, avec Sophocle, par exemple, quand il écrit Oedipe Roi, quand le sphinx, en fait, pose des questions à Oedipe. En fait, ces devinettes-là, elles sont amazigh.
Tout est lié.
Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que tu te dis, mais ça commence pas avec les Grecs alors ? Eh ben non, pas du tout, du tout, du tout. Et la particularité de ce peuple-là, parce que je connaissais vraiment pas, puis voilà, moi il y a une partie de mes racines qui est pas la partie la plus joyeuse, on va dire la plus douce, qui est en Kabylie. En fait, mon père était Kabyle. Et pendant très longtemps, en France... Mon père, c'était l'arabe, quoi, c'est tout. C'est l'arabe, c'est l'algérien, j'étais fils d'arabe, quoi. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte qu'il n'était pas que arabe, en fait. Il était kabyle, avec une culture particulière, avec un panthéon aussi particulier. Et cet homme de qui j'ai jamais réussi à me rapprocher, puisque, il fallait pas parler la langue, fallait être plus français que les Français. Enfin, voilà, tu l'as entendu des milliards de fois, les trucs sur l'intégration, les premières générations, on arrive ici... T'as des opportunités que t'offre ce pays, et tu grandis comme dans ce pays, et surtout, tu oublies tout ce qui a existé avant. Mais voilà, du coup, ces racines-là, je les avais jamais explorées. Et là, en fait, alors c'est tout con, c'est 19 mai 2022, ça fait 7 ans que mon père est mort jour pour jour, on se balade comme ça. C'est un jour où, en fait, on se dit, ok, aujourd'hui on bosse pas, on va se balader. Parce que voilà, j'étais pas en forme. D'habitude, ça va, mais là, j'étais pas en forme. Et on décide d'aller se faire un petit tour à l'expo de Vivian Meyer, qui avait lieu à l'époque, c'était à Pont-Aven et à Quimper en même temps. Et bon, elle m'a bouleversé. Ses regards, ses visages m'ont complètement bouleversé. Et va savoir pourquoi.
À faire sortir des trucs.
Le truc, c'est que j'ai entendu y dire dans ma tête. Il y a une chanson d'Idir, Ayer Khelinou, que j'ai entendue dans ma tête, comme ça, toute la journée. Alors que mon père m'a jamais parlé de Idir, c'est moi qui ai découvert tout seul comme un grand bien des années plus tard. Et puis plutôt avec Vava Inova qu'avec Ayer Khelinou.
Avec les gros tubes, quoi.
Ouais, voilà, avec les trucs qui ont fait reconnaître la culture amazigh, la culture berbère dans le monde aussi, la culture kabyle, parce que c'est... Enfin, t'imagines, c'est une culture, elle a résisté à l'invasion des Romains, à l'invasion des Grecs, à l'invasion des Arabes. Enfin, c'est hallucinant. Il y a encore, tu retrouves encore la culture de cette langue particulière, ce panthéon particulier. Tu retrouves encore ça maintenant dans le monde actuel et des traditions qui encore existent. Et voilà, je pouvais pas ne pas
être charmé. Les peuples premiers ne sont pas les derniers.
Exactement. Ou peut-être qu'ils seront les derniers. Peut-être que c'est eux qui vont traverser tout ce truc-là. Tu vois, il y a peut-être ce truc-là. Une fois que la colonisation, en fait, une fois qu'on aura dépouillé, en fait, notre passé de colon, peut-être que, bah, on sait ce qui se passe une fois qu'on a traversé le colon, quoi. On garde que l'essentiel.
Et juste, peux-tu nous préciser, parce que autant le terme berbère, ça évoque le nord de l'Algérie, mm-hmm. ça parle assez directement, mm-hmm. mais le mot amazigh.
Amazigh, c'est le mot pour dire berbère, en fait. Alors, il y a controverse par rapport à ça entre les différentes, on va dire, tribus ancestrales berbères. Berbère, en fait, le mot vient a priori, en tout cas, les traces les plus nettes qu'on peut avoir pour berbère, c'est barbare. Donc, c'est les Grecs qui, voyant arriver ces hommes, ces femmes, cheveux lâchés au vent, des tatouages partout et des reines comme des rois, et enfin, cette espèce de société absolument incroyable, et surtout ne parlant pas grec, la regardaient pointer du doigt, disaient « barbare ». Donc c'est devenu berbère, en fait. C'est comme ça que c'est resté.
Et qui est devenu progressivement l'autre, en fait.
Et c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est que, enfin, on fait presque plus le lien, en fait, entre barbare et berbère, mais son origine est là. Et amazigh, c'est le nom, en fait, qu'on se donne soi-même quand on est berbère. Amazigh, ça veut dire homme libre. Pas oublier qu'à la base, comme quasiment tous les peuples premiers, ce sont des peuples nomades. Donc il y a quelque chose de très ancré encore dans cette culture. Et en remontant les racines de notre humanité, je me suis rendu compte au bout d'un moment. Bon, l'équipe avait découvert avant moi, en fait. Ils se sont foutus de ma gueule. Mais je me suis rendu compte que je remontais le long de mes propres racines à moi aussi, quoi. Et ça a été, oh bah tiens, surprise.
Une introspection.
Ouais, donc le personnage de Sroi, il n'est pas autobiographique dans moi, mais il est autobiographique, oui, probablement, il y a quelque chose de je crois qu'enfin, ça y est, bon, j'avais tué le père depuis très longtemps, mais je crois qu'avec ce spectacle-là, ça y est, je l'ai enterré, quoi, c'est bon.
Ce roi, il est seul en scène ?
Il est seul en scène. Alors, on a compté 21 ou 25 personnages, je crois, mais c'est lui qui les raconte tous.
Ça va, il garde la santé à la fin quand même, il sait qui il est ?
Ah ben je peux pas te dire.
Ah d'accord, ok.
ça fait partie des tout derniers mots de la pièce, ça je peux pas te dire.
Alors, la danse et le chant, ça fait partie aussi de cette pièce ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, ça après c'est nos enquêtes, hein, j'ai envie de dire, tu sais comment on est, on aime bien mélanger, en fait, on aime bien faire, voilà, comme je te parlais d'hybride tout à l'heure. C'est plus que pluridisciplinaire. À une époque, moi, je sais que je disais volontiers, au tout début de ma carrière, il y a 25 ans, je disais volontiers que j'étais un artiste pluridisciplinaire ou qu'on aimait bien travailler en compagnie. Voilà. Mais en fait, ce qui me plaît le plus, c'est d'aller vers des choses qui sont hybrides. C'est le geste qui devient un mouvement, qui devient une danse, qui d'un seul coup emmène vers le chant. Et puis, le chant, c'est pas que chanter une chanson, c'est aussi la langue, les langues étrangères. C'est aussi. Voilà, il y a plein de passages, en fait, en une seule nuit qui sont. Qui sont dits en berbère, en kabyle.
Alors, en lisant le teaser, comment on appelle ça, le pitch, oui. Le pitch de la pièce,
oui.
La clé du mystère.
Ah.
Là, il n'y a pas. Quand on voit cette pièce, il y a une dimension onirique aussi.
Bien
ou
sûr.
On est dans le concret, on est dans le réel.
Ah non, on est absolument que dans.
Donc
que
tout
dans...
est métaphorique, faut pas tout prendre au premier degré.
Absolument, on peut le prendre au premier degré. Ce sont des histoires. Bon après, voilà, faut juste se laisser embarquer. Il y a voilà, c'est tout à fait plausible, à l'exception d'un ou deux trucs comme genre un oiseau qui parle ou des choses comme ça. Ok.
Voilà.
Il y a deux trois choses qui nous emmènent vers le merveilleux, mais et vers l'onirique de façon indubitable. Mais en revanche, on peut le prendre. Oui, si on peut. Il y a pas trop de place pour l'ambiguïté. C'est un spectacle qu'on a aussi créé pour comme l'idée c'est de la transmission, comme l'idée c'est d'emmener cette chose, de parler des rapports des rapports bon, père-fils, là en l'occurrence dans ce spectacle-là, et des rapports famille, des rapports, attention, elle loupe pas la marche, parce qu'une fois qu'elle est loupée, bah, elle est loupée. Quoi. Il y a ce truc aussi que j'aime bien dans les contes berbères, c'est qu'ils se terminent pas forcément bien. Ah. Tu vois ce que je veux dire?
C'est ouais, que, la happy end, là...
Bah pas forcément. Bon, si t'as foiré, quoi. Et en revanche, tu vis avec ce que t'as foiré. Mais ça, j'aime bien, du coup. Ça oh,
c'est un peu grec aussi, quand même.
Ouais, bah ils ont tout piqué, de toute façon.
D'accord, ok. Alors, on en est là, ok.
On a, d'accord, je vois. Comme par hasard.
Alors, c'est pas sa première, à cette
non.
pièce?
Non, elle a déjà une petite vie, elle commence. Elle est née à l'été dernier. En juillet, fin juillet dernier, suite à quelque chose entre une mécompréhension et un bluff, où on a un partenaire historique qu'on aime beaucoup qui s'appelle...
Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une proposition, c'est prêt ton truc, là, on peut y aller, maintenant, là, tout de suite?
C'est quasiment ça.
Ouais.
C'est même pire que ça, c'est qu'en fait, j'avais l'idée, parce que le 19 mai 22, du coup, j'ai cette chose-là de Idir qui me tourne en tête, et je me dis, pourquoi? Bon, ok, je pense à mon père aujourd'hui, normal, mais pourquoi d'un seul coup, c'est quoi qui m'emmène vers la berbéritude, vers la Kabylie, là, maintenant, tout de suite? Enfin, rien à voir, quoi, enfin, c'est Viviane Meyer, quoi. Et d'un seul coup, je me dis, oh, mais ouais, on n'a plus de spectacle, parce que, tu sais, avec les 2 ans qui sont passés, on a perdu plein de choses dans le collectif, des gens qui sont partis, tout ça. Donc, on se retrouve avec un seul spectacle qui pouvait tourner. On se dit, bon, il en faut un autre, là, il faut remonter un autre, tout ça. Et je me dis, tiens, pourquoi pas le conte, on en voyait beaucoup à ce moment-là. Et, je me dis, bah, écoute, bah, ouais, tiens, faisons, essayons cette chose-là. Mais pourquoi on disait ça, d'ailleurs, juste avant? Je me suis perdu dans le film.
Moi aussi.
Ouais, t'as vu ça, hein? T'as vu ça, pam, 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 pam. Incroyable, j'adore les digressions qu'on fait ici. Désolé, non, on était
sur la première, la
oui,
question
c'est
c'était
ça,
là.
Et la première, voilà.
Et voilà. Donc, du coup, il y a eu un accueil.
J'ai ce truc dans ma tête qui dit, ah oh ouais, tiens, faisons un compte, machin, ça va être cool. Et on rencontre donc notre partenaire historique, la CCAS de Morgade, qui nous dit, ouais, on vous prend un spectacle, mais on en a plus qu'un, et c'est pas pour les enfants, bon, on prend quand même celui-là. Et il nous rappelle...
Oui, parce qu'il faut rappeler aussi que la cible est tout public.
C'est tout public.
C'est mercredi 19 à 14h30.
Absolument.
Ça donne un indice.
Et avec même en plus un accueil spécifique des... Alors attends, parce que maintenant on utilise un terme qui s'appelle... Ça fait ALSH. Ah, je vois que
ah ouais,
tu ne sais pas.
Tu sais pas. ALSH.
ALSH, ouais, centre de loisirs.
Très bien.
Voilà.
Mais ce n'est pas ça les lettres.
Si,
un
loisir sans hébergement.
Si, ça doit faire un truc comme ça.
Ouais.
En tout cas, on rappelle, en une seule nuit, elle a traversé tout le désert, c'est le 19 avril à Crozon,
oui.
À l'Améthyste.
Oui. Voilà.
Et côté coulisses, il se passe plein de choses du côté du collectif Nous Enquête. Parce qu'il y a une petite mue là qui se profile.
Oui.
Tu l'évoquais à l'instant, en fait, il y a un petit renouvellement. Quoi.
Ouais, tout à fait. Bah, qui était nécessaire. Qui était nécessaire à un moment aussi pour... juste pour comment dire, nous replonger dans une période créative où on se dit ça y est, c'est bon, maintenant on arrête d'avoir peur, on continue, on avance, on va faire ce qu'on est censé faire, à savoir du spectacle vivant pro et créer ici, emmener les choses d'abord ici, puisque en fait on a un public assez merveilleux ici, pas dans le sens où c'est un public qui te dit waouh, c'est un drôle bien ce qu'on fait, mais au contraire c'est un public, tu vois, qui, s'il y a le moindre truc qui va pas, tu le sais tout de suite,
qui est critique, c'est objectif,
on est à ça d'être dénanté, quoi, je veux dire. Ouais, c'est en gros, si un jour tu veux, tu es dans le spectacle vivant, tu veux savoir si un spectacle peut partir en tournée, tu l'emmènes à Nantes et là tu sais.
D'accord. Ouais. Il y a une spécificité nantaise.
Oh, oui.
Ah ouais.
ouais, c'est assez. Bah en fait, de ce que de mon époque parisienne, montpelliéraine, lyonnaise ou quoi que ce soit, c'est vraiment ce truc-là. Tu veux savoir si ça peut passer à peu près partout, tu emmènes à Nantes. Et à Nantes, le public est
donc,
suffisamment.
Pas besoin d'aller à Nantes, suffit de la presqu'île.
On en a ici. Alors je sais pas si c'est des Nantais ou des Nantaises, mais pour le coup, on a vraiment des gens qui sont honnêtes, pas brutalement honnêtes, mais qui sont totalement honnêtes. Qui peuvent venir chercher la petite bête sur des choses, poser des questions sur des petites choses très très précises. Et ça, pour nous, c'est... Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'on continue à les faire ici. Aussi, nos créations. C'est important pour nous d'être basés ici.
Bon, ancré au territoire.
Absolument. Et avec les gens d'ici aussi. Mais après, notre métier, c'est aussi de les emmener ces histoires ailleurs. Tu vois, en une seule nuit, l'idée d'emmener cette chose-là vers un public aussi... oui, nationale et peut-être même, pourquoi pas, aller frôler de l'autre côté de la Méditerranée pour leur dire, regardez, en fait, on peut partager des choses aussi. Et je sais pas, mais alors, c'est ça l'idée, quoi.
Au travers d'un réseau théâtre institutionnel ou quand même hors sentier?
Bah, tu sais bien comment qu'on est. En fait, c'est pas qu'on n'aimerait pas, dans l'absolu, être remarqué par les institutions et de pouvoir après partir avec du confort, parce que le travail avec les institutions, ça apporte ça pour une compagnie théâtrale, ça apporte du confort. C'est ça. C'est que tu sais que à chaque fois que tu travailles, t'es payé, ce qui n'est pas toujours le cas quand tu travailles à l'ARCET. Quand tu te déplaces, tu sais à l'avance où, comment et tout ça. Tout est. C'est un peu comme une boîte de prod, tu vois. C'est les choses sont simplifiées. C'est plus confort pour les artistes.
Mais c'est pas ça que vous avez aussi envie de créer quelque part avec le collectif Nous Enquête?
Oui, mais pas avec cette. Alors pas avec la visée confortune, mais plutôt avec la visée bon plan inter. Tu vois, c'est on commence. Alors bon, tu sais qu'on a aussi ce projet périphérique parallèle, le Café des Voyageurs, ou voilà, ou bon, qui est totalement séparé de Nous Enquête, hein, ça n'a rien à voir. Mais pour le coup, on se rend compte de en accueillant des artistes comme nous, on aimerait être accueillis quand on est ailleurs. On se rend compte qu'il y a plein d'endroits, même des grandes salles en fait, qui ont envie de fonctionner en dehors des institutions, parce que on en parlait un tout petit peu là en off juste avant. C'est vrai que, enfin, on sait que la culture devient plus exactement une priorité en termes de financement dans notre pays. Et on sait comment les fonds sont distribués d'une façon générale. C'est, t'appartiens à tel ou tel cercle, et ben dans ces cas-là, tu deviens crédible simplement parce que tu appartiens à un cercle. Et moi, je sais que je suis crédible. Je sais que le travail qu'on fait est du bon travail. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Et dans l'absolu, si les institutions ont envie de soutenir des choses comme ça, tant mieux pour nous. Mais pour le coup, on va pas attendre, on peut pas attendre. Et puis surtout, on est en presqu'île de Crozon. Enfin.
Mais oui, justement, vive du théâtre en presqu'île de Crozon, oui. c'est un sacré défi quand même.
Oui, mais c'est pas pour nous qu'on trace cette route là. C'est un petit peu comme planter un arbre et tu sais que tu seras jamais toi en train de faire ta sieste à l'ombre de cet arbre là. C'est pas pour nous qu'on le fait. C'est l'idée, c'est quand même d'emmener une culture à la fois populaire mais de très grande qualité, parce que c'est ça notre... On a exigence de fous furieux, hein, envers nous-mêmes et envers nos collaborateurs. On est deux directeurs artistiques, où je sais qu'on a tendance à mettre la barre très haut. Mais en même temps...
Tant qu'à faire, autant faire les choses bien, sinon on les fait pas.
Oui, bah c'est ce qu'on se dit aussi, mais après c'est vrai que je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à percevoir ça en se disant « Oui, mais pour ici, ça peut passer ». Oui, mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous. Ce qui nous intéresse, c'est où des gens... Je me souviens, tout premier spectacle qu'on faisait ici, des gens qui me mettaient hors de moi en disant « Vous avez pas l'impression que c'est un peu de la confiture au cochon ? » C'est dégueulasse de dire des trucs pareils. Pourquoi ici, on n'aurait pas le droit, en fait, de... Parce qu'on n'avait pas de salle à l'époque, tu vois, déjà. Mais même, enfin, pourquoi on n'aurait pas le droit de produire des choses d'une très grande exigence, parfois même un peu perché, parce que on se souvient que Nous Enquête fait pas que des trucs non plus hyper accessibles. Il peut nous arriver aussi de faire des trucs hermétiques, conceptuels ou extraordinairement poétiques ou vraiment dans le warf. En fait, on est protéiforme, mais l'idée c'est à chaque fois avoir une exigence de fou furieux pour le faire, parce qu'en fait, on se rend compte de ce que ça transforme de la vie des gens. En fait, c'est tout con, hein, mais ça. C'est pas juste du divertissement. Bien sûr que c'est important de rentrer là entre autres. Bah, je te dis ça en une seule nuit. Tu passes une heure et demie sur le dos sous les étoiles dans le désert. Donc, évidemment, avec quelqu'un qui te raconte des histoires. Donc, forcément, on se déconnecte de nos réalités. Mais l'idée, c'est de repartir avec est-ce que j'ai été clean, moi, toute ma vie, avec les gens que j'aime? Est-ce que ce roi, on a envie quand même que ça se passe bien pour lui, mais en même temps, sa malédiction, il la mérite ou pas? Enfin, c'est... tu vois, et de repartir avec ça, c'est tout petit, hein, c'est trois fois rien, mais c'est notre profonde humanité, donc ça vient bouger des choses qui sont plus loin que ce qu'on imagine.
Retour au basique.
Ouais, exactement.
Eh ben, merci beaucoup Malik. Quelle belle pirouette, toi, hein. On était parti sur les questions Nous Enquête et là on revient pour la fin d'émission.
Merci beaucoup.
Avec la pièce de théâtre En une seule nuit, elle a traversé tout le désert. Donc c'est le 19 avril à Crozon à 14h30. Merci beaucoup Malik.
Merci beaucoup.
L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.